Chapitre 10. La photo montre un homme gelé dans un lac. Il est agenouillé, de l'eau jusqu'à la taille. Sa tête coupée gît sur la glace devant lui. Ce meurtre balaie complètement la théorie de l'accusation. Il est clair qu'il s'agit du même tueur que celui du camping. Hugo Sand, 17 ans, sera remis en liberté. Yuna agrandit l'image et observe l'incision sur le cou. Elle est nette. Le tranchant de la hache est plus large cette fois-ci, et le cou a été porté à l'horizontale. Les néons du bureau éclairent les surfaces sombres de l'image sur l'écran de l'ordinateur, le sang qui s'est écoulé dans le dos de la victime. Tôt ce matin, Yuna s'est assis pour lire une deuxième fois les transcriptions des échanges téléphoniques de Hugo. Sur ses SMS, trois amis proches reviennent régulièrement. Il y a aussi de brefs échanges avec son père, mais le plus intéressant sont ses conversations avec sa petite amie, Olga Wojcik. À plusieurs reprises, ils évoquent un projet de voyage au Canada. Il est manifeste qu'ils ont des difficultés à réunir suffisamment d'argent avant l'été prochain. Dans un message, il écrit qu'il se sent faible et épuisé après l'école. Olga lui répond qu'elle va lui donner des médicaments et prendre soin de lui. Le médicament n'est peut-être qu'un jeu érotique entre eux. Mais Yuna a aussi envisagé le lien avec les traces de benzodiazépine retrouvées dans le sang de Hugo. Il s'apprêtait à convoquer Olga Wojcik pour un interrogatoire lorsque l'alerte en provenance du club de tennis d'Edsviken est arrivée. Des enfants de maternelle avaient trouvé le corps et l'un des enseignants avait appelé le 112 tandis que ses collègues éloignaient les petits de la jetée et de la plage. Yuna avait aussitôt contacté le centre de détention de Kronoberg afin de vérifier que Hugo ne s'était pas échappé. Son interlocuteur l'avait informé que le jeune homme avait été transféré à l'unité médicale après être tombé de son lit pendant la nuit. Lorsque Yuna est arrivée sur les lieux, la scène de crime était déjà bouclée par le chef de la police scientifique, Eriksson, et son équipe. Il est resté sur place jusqu'à se faire une idée claire du déroulé des événements. Les plongeurs en combinaison étanche étaient en train de découper la fine couche de glace et de fouiller l'eau pour collecter des échantillons dans l'espoir de trouver des traces biologiques ou des fibres. Après avoir photographié les différentes parties du corps sous la surface de l'eau, ils ont tiré la victime vers la rive, ramassé la tête et glissé de larges morceaux de glace dans des sacs de congélation. Yuna penche la tête vers l'ordinateur et examine les images du pare-brise défoncé de la voiture. L'impact du coup de hache a formé tout un réseau de fines lézardes et les éclats de verre se sont répandus sur le siège du conducteur. On frappe à la porte et Magda Brands, l'assistante du chef, passe une tête faisant teinter ses bijoux. Elle annonce que les portes de la grande salle de réunion sont ouvertes. « Il veut que tu viennes tout de suite. »« Ok, » répond Yuna. Le nouveau chef de la NOA s'appelle bizarrement Noah. Noah Hellman. Il n'a que 38 ans, n'a jamais travaillé en tant que policier au sens traditionnel du terme, mais possède un doctorat en sciences politiques et a été pendant plusieurs années le représentant des services de sécurité au sein de la direction opérationnelle de la police nationale. Il est déjà très apprécié, autant par la hiérarchie que par son équipe. Il possède son propre compte Instagram et gère parfaitement les relations avec les médias. Yuna s'engage dans le couloir, passe devant les fenêtres aux rideaux tirés et se dirige vers la porte ouverte. Noah a fait installer une table de billard au centre de la salle. Autour, il a disposé des chaises hautes et des tables basses pour les boissons. Quand Yuna entre, il est en train d'appliquer de la craie sur sa queue de billard. Il relève les yeux et lui adresse un sourire charmeur, presque enfantin. « Mon ami, » dit-il calmement, « Magda m'a dit que tu voulais me voir. » Noah porte des baskets rouges, un jean et une chemise bleu clair. Il est rasé de près et ses cheveux blonds, mi-longs, lui tombent dans les yeux. Le meurtre au club de tennis, quelles sont les similitudes avec le précédent ? Demande Noah. La victime est aussi un homme. Il a le même âge. Et il a été tué à coups de hache. Son portable et son portefeuille ont disparu, répond Yuna. La première victime aussi a été volée ? Difficile à dire. Il n'y avait pas d'argent dans son portefeuille et il lui manquait son alliance.
Et les différences ?
Je n'ai pas encore examiné le corps de près, dit Yuna. Mais la victime précédente a été massacrée, alors que celle-ci...
Tandis que Noah frappe la boule blanche en diagonale, Yuna revoit la façon dont les deux plongeurs ont soulevé la victime pour la déposer dans le sac de transport. Du sang a coulé depuis l'intérieur du corps et est venu rougir la couche de gel qui s'était formée autour de la partie tranchée du cou. Sa chemise s'est ouverte, laissant apparaître une longue égratignure verticale en travers du torse, sans doute provoquée par l'arête pointue de la glace au moment où l'homme s'était retrouvé à genoux. En dehors de la décapitation, la main à moitié tranchée était la seule mutilation visible. Les plongeurs ont refermé le sac et l'ont traîné sur le rivage. Les roseaux jaunes se sont brisés et une poudre de neige s'est mise à pleuvoir autour d'eux.
« Qu'est-ce que tu dirais à propos de ce meurtre ?» demande Noah en faisant le tour de la table de billard. « La victime a été abandonnée aussitôt après le coup mortel. »
J'ai regardé les photos, bien sûr, mais j'ai un peu de mal à déchiffrer la carte, dit Noah.
Il était assis dans sa voiture, côté passager, le dossier rabattu lorsqu'il a été attaqué.
Ça, j'avais compris.
La hache a raté sa cible. Il n'y a pas de sang dans la voiture, poursuit Yuna.
Il a donc couru vers l'eau.
Il était en train de passer au-dessus de la boîte de vitesse lorsque le pare-brise a été brisé. Il est sorti par la portière côté conducteur, tandis que l'agresseur contournait la voiture. Les coups de hache ont repris, lui sectionnant les doigts de la main gauche avant d'aller s'enfoncer dans le lambris d'un bâtiment. La victime s'est enfuie et a tenté de se cacher dans les roseaux. Saignant abondamment et en état de choc, elle a été poursuivie et, sans doute pour échapper au tueur, s'est finalement jetée à l'eau. Mais elle a été rattrapée.
Noah regarde Yuna avec un sourire sceptique. Tu as l'air très sûr de toi.
On n'a pas pu relever d'empreintes dans le gravier du parking, mais on peut lire la scène grâce aux dégâts causés par les coups sur la voiture, aux traces de sang sur le sol.
Je te crois.
Tes conclusions me paraissent raisonnables. Et je t'écoute.
Mais je ne suis pas un vrai flic, sourit Noah. Je suis un carriériste. Un putain de carriériste, je le reconnais volontiers.
Aujourd'hui, je suis responsable de la NOA, et demain, je pourrais être à la tête de la police du département. Je suis sociable, j'aime les afterworks, mais je tiens à m'assurer que les choses sont faites.
C'est ce qui compte, déclare Yuna. Aimer les afterworks ?
Plus sérieusement, je veux qu'on travaille dans une ambiance détendue ici. Mais il faut qu'on garde un contrôle strict sur les médias, si tu vois ce que je veux dire.
Je me débrouille généralement tout seul.
Yuna, on m'a averti à ton sujet, mais je voulais me faire ma propre idée. Et pour l'instant, ce que je vois me plaît, continue Noah. Le procureur a annoncé qu'il était impossible de poursuivre le garçon. L'enquête est désormais entre nos mains et beaucoup se portent volontaires. Mais je veux que ce soit toi qui t'en charge.
Merci.
On est en train de recruter un partenaire pour toi, et inutile de mentionner que tu veux à nouveau travailler avec Saga.
Je veux travailler avec Saga, dit Yuna.
Qui ne le voudrait pas, plaisante Noah. C'est l'une des meilleures, mais c'est encore trop tôt.
Alors je préfère rester seul.
Je savais que tu dirais ça, sourit-il. Mais j'ai besoin de joueurs qui sachent travailler en équipe.
Tu as besoin de toutes sortes de personnes,
peut-être, mais si je résous cette affaire... Je veux que tu intègres Saga dans notre équipe, lâche Yuna.
C'est ton travail de résoudre les affaires. Tu ne peux pas négocier avec
« je fais plus que mon travail », l'interrompt-il.
Je l'ai bien compris, répond Noah, fatigué.
Donc je peux négocier, insiste Yuna.
Non, ça, si.
Noah soupire et pose sa queue de billard sur son épaule. Yuna sait comment Saga est perçue par les autres. Et il sait aussi qu'elle a encore un long chemin à parcourir avant de retrouver sa stabilité mentale. Après la mort de sa demi-sœur, elle a vécu une relation destructrice. Habitée par une sorte de haine de soi,
Elle s'est tournée vers l'un des médecins présents lors de son opération et a entamé une liaison avec lui dans le but d'être humiliée, punie, et de se marquer elle-même du sceau de la culpabilité. La dernière fois que Yuna est allée chez Saga, son appartement de Tavatsgatan lui est apparu comme le reflet de son déséquilibre psychologique. Sur la table de la cuisine, un sachet de pain moisi traînait à côté d'une boîte de conserve ouverte d'où dépassait une cuillère. Elle dormait dans un lit étroit, sans drap, et passait le plus clair de son temps à lire des articles scientifiques et des livres médicaux sur la chirurgie pédiatrique et le traitement des palpitations cardiaques. Elle ne cessait de répéter qu'elle ne voulait plus jamais s'attacher émotionnellement à quelqu'un. Saga se rend tous les jours au département de lutte contre le blanchiment d'argent, où elle occupe un emploi à temps partiel, mais son véritable potentiel reste complètement inexploité. Yuna sait que si elle ne se sent pas utile, elle va s'effondrer. Noah applique à nouveau de la craie sur sa queue de billard et contourne la table. Hugo Sand a été libéré, dit-il, mais il reste toujours impliqué dans le premier meurtre. Il faut encore s'assurer que les deux affaires sont bien liées. Elles le sont, dit Yuna. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'on puisse aller égorger des gens avec une hache lors d'une crise de somnambulisme, dit-il en frappant la bille blanche qui va percuter la jaune avec un bruit sec. Non, mais qui sait? Il est plus probable que Hugo ait tué l'homme et se soit ensuite endormi dans la caravane. Il souffre peut-être de narcolepsie ou je ne sais quoi. Et maintenant, il utilise un vieux diagnostic de somnambulisme pour expliquer sa présence sur le lieu du crime. J'y ai pensé. Et tu as abandonné cette idée? Non. Noah fait de nouveau le tour de la table. Mais tu crois qu'il a vraiment été victime d'une crise de somnambulisme? Demande-t-il en changeant de ton. J'ai commencé à me renseigner sur cette pathologie et il se pourrait bien que ce soit aussi simple que ça. Il s'est juste retrouvé dans ce camping où il allait quand il était plus jeune. Quelque chose l'a poussé à y retourner dans son sommeil. Et comme par hasard, un meurtre est commis au même moment. Le hasard, ça ne veut rien dire. Presque tous les témoins extérieurs sont là par hasard, dit Yuna. C'est seulement lorsqu'on trouve des connexions qu'on peut parler de liens. Donc il pourrait être soit témoin, soit coupable, soit rien du tout. Mais tu n'y crois pas? Non. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Je vais aller voir Hugo, m'excuser au nom de la justice et ensuite l'interroger en tant que témoin potentiel, répond Yuna. Même si tu penses qu'il pourrait être coupable,